On parle de petits génies, Claude.
Des petits génies en maths. Les enfants ukrainiens qui intègrent nos écoles et dont les équations résolues font jaser. Et il y a deux semaines, le site étudiant du Figaro, parlant de l'émerveillement recueilli par BFM TV de la collégienne Karina à Fontenay-sous-Bois, « Ici les maths, c'est beaucoup plus facile », y voyait une nouvelle preuve de notre déclin matheux. Mais ce matin, l'opinion approfondit le dossier. Alors oui, les gamins ukrainiens sont bons en maths, tellement bons que leurs parents s'inquiètent du faible niveau de nous, leur pays d'accueil. Et les Ukrainiens, qui sont depuis longtemps en France, s'amusent de leur surprise. « Les Français sont mauvais », dit une cruelle Diana, ingénieure qui depuis des années a pu comparer. Car en Ukraine, qui a hérité cela de l'Union soviétique, les maths c'est sérieux. On fait du par cœur, des fondamentaux. On maîtrise à 10 ans les polygones, les solides, les angles, les aires, la symétrie, les graphiques. Je ne saurais pas être un Ukrainien de 10 ans. Oui, mais trop de par cœur ne favorise pas l'esprit critique et les petits Ukrainiens finissent par avoir besoin d'aide chez nous car ils pêchent dans le raisonnement et la démonstration, nous sommes rassurés. Je lis aussi que les réfugiés ukrainiens qui viennent en France sont souvent de familles aisées investies dans l'éducation des enfants et ça compte, et Bourdieu, ça aussi, c'est français. Cette parenthèse matheuse nous rappelle que l'accueil des réfugiés forcément nous impacte. Nous qui accueillons devons nous comparer. Et ce matin, des journaux avec générosité et lucidité nous racontent le choc. Alors vous lirez « La beauté juvénile » dans l'écho républicain de Tetiana, qui a 25 ans, paraît moins encore, et porte son Arthur né au Coudray le 31 mars, qui est le premier nouveau-né ukrainien de l'Eure-et-Loire. Et puis la beauté poignante de Julia Karlamova, docteur en philosophie et pompière chez elle à Kharkiv, qui a tout quitté pour protéger ses enfants, et dont le visage raviné d'inquiétude fait la une de Lyon républicaine. Et puis la détermination dans l'écho républicain à nouveau des sœurs Osmak réfugiées à Chartres. Yulia, l'aînée, est maître internationale d'échecs. La cadette Elena, ceinture noire de karaté. Elle est inscrite au collège. Est-elle aussi bonne en maths? Mais après l'émotion, Sud-Ouest nous rappelle que l'accueil des réfugiés, c'est du provisoire qui devient le quotidien, avec des inconnus qui deviennent des familiers, une joie, mais des obligations, un marathon. Et à Codéran, Caroline, qui accueille Tatiana, Alexander, Radomila, Yaroslava, se demande si sa conscience citoyenne n'est pas prise en otage, puisque les autorités ne proposent rien pour qu'elle et ses invités retrouvent de l'intimité. Vous allez retrouver cette lassitude dans le populaire du centre, où Michael, qui accueille 7 personnes, demande du soutien. Sa facture d'électricité grimpe, EDF n'a rien prévu pour lui. Et dans la Voix du Nord, Michèle Henry, institutrice retraitée qui abrite une famille de 6 personnes, avertit qu'elle va coincer. Elle boucle l'ordinaire avec le potager des voisins.
On parle aussi d'une banquière.
Elvira Nabiulina, gouverneure de la Banque Centrale de Russie, une femme de pouvoir dont l'opinion, qui traduit comme chaque jour le meilleur de Wall Street Journal, livre un portrait passionnant car elle souligne notre désarroi face à la Russie. Madame Nabiulina s'emploie aujourd'hui à protéger avec un mur financier l'économie russe des sanctions internationales, mais ce faisant, elle sacrifie tout ce qu'elle avait construit, car elle était celle qui intégrait la Russie à l'économie du monde, qui luttait contre la corruption de ses banques. Ses homologues occidentaux l'estimaient. Elle prenait la parole devant le FMI. Christine Lagarde l'accompagnait à l'opéra. Aujourd'hui, les amis occidentaux de Madame Nabiulina regrettent qu'elle n'a pas démissionné. Mais le Wall Street Journal, l'opinion, nous dit que cette femme, qui aujourd'hui organise l'autarcie russe, après avoir été l'adepte de l'économie de marché, fut dans sa jeunesse, sous l'Union soviétique, une excellente étudiante en marxisme-léninisme. Elle fut toujours, chez elle, une bonne élève. Nous n'avions pas compris. Dans le point. Un homme nous parle également de la Russie et de ce que nous avons raté avec elle, et puis de Vladimir Poutine, dont il se demande si le Covid ne l'a pas amené plus facilement à transformer ses obsessions en guerre. La pandémie, dit Emmanuel Macron, c'est lui, a réduit pour beaucoup de dirigeants, qui étaient déjà à la limite de la solitude, le coût d'opportunité de se couper du reste du monde. Il s'est retrouvé à Sotchi pendant des mois, il s'est enfermé, il s'est moins frotté à d'autres raisonnements. Et le président français poursuit, pourquoi je continue à lui parler ? S'il ne parle plus à personne, alors on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et bien au-delà de Poutine, ce long entretien mérite le doute des tours. Le Point avait interrogé en profondeur Emmanuel Macron avant qu'il ne devienne président. On le retrouve aujourd'hui, un homme toujours ferri de mots et de ceux qui le possèdent, qui parle de violence avec son ami Peter Sloterdijk, qui se souvient d'un voyage à Belgrade, où le bédéaste Anki Bilal, il l'appelle Anki, lui avait rédigé un discours en serbe, et qui explique, lui qui n'a jamais écrit de livre, qu'il vit sa vie comme une écriture. Et la question qui se pose quand Le Figaro décrit les contradictions d'Emmanuel Macron et Libération ironie sur ses appels à gauche et Le 1, qui lui aussi le connaît bien, se demande s'il peut perdre, ce pays voudra-t-il encore lire avec lui ?
Et on parle enfin, Claude, de Disney.
Un autre raconteur d'histoire qui nous dit Le Monde se bat en Floride contre une loi homophobe passée par les Républicains qui interdit que l'on parle de genre et d'orientation sexuelle dans les écoles. Disney, qui possède à Orlando une vraie principauté, pensait ignorer cette loi, faire comme si elle n'existait pas. Mais ses employés, même l'héritière Abigail Disney, ont rappelé au patron qu'ils étaient une entreprise inclusive. Alors le PDG Chapek est entré en guerre. Les Républicains de Floride répondent. Et le gouverneur de Californie fait savoir qu'il est prêt à accueillir le géant Disney tel un réfugié progressiste. Ce sont des frontières là-bas, aussi fermées que les nôtres.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.